pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe en Afghanistan. Elle m'a été rapportée par un travailleur humanitaire qui, j'en suis sûre, préférerait garder l'anonymat. Nous sommes en 1997-98, pendant la brève période où le pays est un émirat islamique gouverné par les talibans, de prétendus étudiants en religion, ultra-radicaux dans leur pratique de l'islam, souvent peu éduqués, qui installent la charia dans tout le pays. À Kaboul, ils sillonnent une ville désertée de ses habitants, debout sur des pick-up Toyota, avec leurs turbans noirs et leurs yeux verts cernés de kohl. Ils ont une kalachnikov à la main ou bien un fouet et terrorisent une grande partie de la population. Leur méthode pour restaurer la paix et le calme après des années de guerre civile sont basées sur l'intimidation et la terreur qui culminent chaque vendredi dans le grand stade de Kaboul au nord de la ville. Ici, avant le match de foot hebdomadaire, les habitants sont forcés d'assister aux divers châtiments destinés à punir les voleurs, traîtres, assassins et autres couples adultères ou non mariés. Les tarifs sont codifiés assez précisément dans la charia, amputation d'un ou plusieurs membres, du pied ou de la main, c'est plutôt pour les vols, loi du talion pour les meurtres et lapidation, ça c'est surtout pour les crimes sexuels. Le spectacle terrifiant est suivi par des dizaines de milliers de spectateurs. Sauf que voilà, ça n'est pas si simple, la dictature. À mesure que les semaines filent, les talibans se trouvent confrontés à un fâcheux problème. Leurs amputations sont de véritables boucheries. Les mains et les pieds coupés s'infectent, se nécrosent, il y a eu des morts, bref, le travail est mal fait. Évidemment, ça ne s'improvise pas, sectionner un membre. Et le but, c'est de respecter la charia, pas de faire de nouveaux martyrs. Donc voilà qu'une délégation de talibans enturbanés se décide à prendre les choses en main et se rend très officiellement au siège d'une grande ONG médicale française présente à Kaboul. Ils demandent une formation, ils veulent de l'aide pour éviter les bavures, ils veulent des rudiments de chirurgie pour faire des amputations propres. Évidemment, leur naïveté étonne. Comment imaginer d'une organisation humanitaire qu'elle va prêter main forte à un projet aussi monstrueux ? Pourtant, au sein de l'ONG, des voix s'élèvent pour défendre les victimes et leur droit à un meilleur traitement. Il y a débat, discussion, le problème est délicat, c'est le moins qu'on puisse dire. L'histoire ne dit pas, ou en tout cas je ne vous dirai pas, ce que cette grande ONG médicale française a répondu, ce qu'elle a fait ou pas, officiellement ou officieusement. Mais voici le genre de dilemme auquel sont confrontés les travailleurs humanitaires. Aujourd'hui, deux autres histoires d'humanitaires, moins graves mais tout aussi édifiantes. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un reportage de Delphine Dilly.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Charlotte, je suis chargée de communication pour une organisation non gouvernementale française. Je suis tombée dans l'humanitaire. Ça faisait déjà plusieurs années que j'avais un attrait pour le social, l'associatif et l'humanitaire. À la base, je voulais être journaliste et je voulais être reporter international. Et en fait, j'ai découvert la communication humanitaire qui permet d'allier les deux, en fait. Et du coup, quand j'ai découvert ça, j'ai décidé que c'était, ça serait mon métier et c'est mon métier et j'en suis très contente. Je suis partie pour 6 mois en Guinée et voilà, a été déclarée en début 2014. Donc moi, je suis arrivée début 2015. Donc c'était un an quasiment après le début de l'épidémie, un peu moins. Pendant la mission, donc quiconque bossait pour cette organisation était dans ce qu'on appelle la no-touch policy. Donc en français, ça fait la politique de ne pas se toucher. Il fallait suivre un protocole, suivre des règles. Il fallait mettre les caméras dans certaines conditions. Il fallait enfiler des bottes, enfiler ce qu'on appelle un scrubs, c'est les tenues d'infirmier. Il fallait que tout le monde se plie à ça. On devait être à une certaine distance physique des uns et des autres. On ne partageait pas les verres, on ne partageait pas les fourchettes, les cuillères, les assiettes, les mêmes chambres, les mêmes douches, les mêmes toilettes. Par exemple, chaque fois que tu rentres dans un bâtiment, il faut te laver les pieds au chlore, laver les mains au chlore, prendre ta température. Chaque fois que tu sors, c'est la même chose. En fait, il y a toujours des risques. Il faut continuer à être vigilant, quoi qu'il se passe. Et la difficulté, je trouve, par rapport aux autres missions, par rapport à des missions où tu vas être sur des terrains de guerre ou sur des lignes de front, ça va être que c'est toi qui es responsable de ta propre sécurité. Tu fais une erreur, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, en fait. Parce que ça veut dire que c'est toi qui t'es mis en danger. Alors que sur une ligne de front, des choses comme ça, tu peux pas savoir si le mec il va venir te braquer, tu vois. Tu peux pas savoir si... Si un jour j'avais décidé de partager une bière avec quelqu'un ou un coca avec quelqu'un, c'est ma responsabilité. Donc je peux m'en... enfin, il y a qu'à moi que je peux m'en prendre. Je me souviens d'un matin, c'était je pense au bout d'un mois et demi, deux mois, où je me suis réveillée, j'étais fatiguée. Je pense que j'avais de la température, donc j'ai pris ma température. Au-delà d'une certaine température, tu devais prévenir par texto ton coordinateur médical ou ton médecin et lui dire « j'ai de la température, je reste dans ma chambre ». Un des symptômes d'Ebola, c'est d'avoir de la température. Donc tu restais dans ta chambre et t'attendais que ça passe pour voir si tu n'avais pas un autre symptôme qui se déclenchait comme des nausées, la diarrhée ou autre. Et là, en l'occurrence, j'étais juste fatiguée, j'avais de la température, pas beaucoup. Et j'étais un peu triste, j'étais pas au top, quoi. Et j'ai appelé ma maman, yo, hein, mais voilà, j'ai pas honte de le dire, j'ai appelé ma maman, j'ai pris des nouvelles de la famille, j'ai du coup rigolé, etc. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais juste besoin d'un câlin. J'avais juste besoin de quelqu'un, en fait, de toucher quelqu'un, un humain. Et je me suis rendu compte de la chaleur de la peau humaine quand je suis repartie, quand j'ai pris mon break entre les deux. La peau humaine est chaude, mais on s'en rend pas compte parce qu'on touche les gens toute la journée. Même si on n'est pas tactile, par inadvertance, on peut les toucher. Mais là, on ne les touchait pas. C'est pas très bien, quoi. Voilà. Puis au bout d'un moment, tu t'habitues, en fait. Tu t'habitues et c'est quand tu rentres que tu te rends compte que... Bah, que c'est différent. Quand je suis rentrée... Je me souviens que ma mère est venue me chercher à l'aéroport et je lui ai demandé de ne pas me toucher, en fait. Parce que j'avais du mal, en fait. J'avais du mal avec le contact humain, avec la chaleur de la peau humaine. C'était très étrange. Après, tu as aussi une période de carence pendant 21 jours. Tu n'as pas le droit, par exemple, de prendre le métro, d'aller dans des concerts ou autre. Et tu dois prendre ta température deux fois par jour pour vérifier si tu ne déclenches pas des symptômes. J'étais en couple à l'époque. Je vivais chez mon copain. Et j'ai mis du temps à retourner chez lui. J'ai senti que c'était dur parce que comme j'ai pris l'habitude de me laver les mains constamment au chlore tout le temps, aujourd'hui encore, donc plus de deux ans après, j'ai encore des gels hydroalcooliques sur moi constamment parce que j'ai besoin de me laver les mains tout le temps. Ça me stresse dès que je touche le métro, dès que je touche quoi que ce soit. J'ai peur de la contamination. Au début, la volonté de se laver les mains, ça a vraiment évolué. C'était vraiment un toc. C'était un gel hydroalcoolique par semaine, quoi. Parce que je me lavais les mains, mais toutes les 10 secondes, quoi. Mais voilà, c'est un espèce de... C'est pas un traumatisme, parce que j'aime pas le mot, mais c'est mon héritage d'Ebola, on va dire. En revenant, je me sentais fière d'avoir pu bosser là-bas, d'avoir pu aider. Envie de repartir. Tout est exacerbé quand tu es en mission. Le temps de travail, les rencontres, les personnes que tu vas aider, les situations. Tu vas vivre des choses tellement fortes, tellement dures, tellement condensées, en tellement peu de temps, au final, que quand tu rentres, c'est fat, ça n'a pas de couleur. J'étais pas la même en revenant. J'ai mis du temps. J'avais peur de reprendre le métro parce qu'il y avait du monde, notamment le matin. Les gens te touchent, tu te sens étouffé. L'été, t'as ces bras, cette transpiration, cette sueur. Mon copain d'époque a été très compréhensif là-dessus. Il faisait une espèce de cocon autour de moi pour justement que j'ai cette impression de pouvoir respirer. Et donc j'ai mis du temps. Du coup, après Ebola, j'ai demandé à repartir en mission. Ils m'ont envoyé en Centrafrique pour 6 mois en tant que chargée de communication. Je suis finalement restée 8 mois. parce que je suis tombée amoureuse du pays, entre guillemets. Donc j'ai traversé le pays de long en large et en travers pour essayer de récupérer des informations dans nos divers programmes qu'on avait dans le pays. J'ai pas sorti la tête de cette mission pendant 8 mois. Je suis rentrée en vacances une fois et après j'ai pas arrêté. Donc tout ça, ça a explosé et en fait ma fête de départ s'est transformée en moi dans mon lit avec 42 fièvres. Mais je partais quand même en vacances derrière, je me suis dit quand même. Et en fait je suis partie en vacances et j'ai été rapatriée au bout de 3 jours avec un paludisme, une mononucléose et une hépatite E. Les 3 en même temps. Et c'est extrêmement frustrant quand ton esprit veut continuer. Quand j'ai appelé en disant bah, j'ai ça, 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 elle m'a dit ouais. Bah, tu repartiras pas en fait. J'ai pleuré. J'ai dit non, je veux repartir, je suis sûre que je peux repartir, donnez-moi 3 semaines, je repars. Non, il m'a fallu 3 mois. Mon corps a dit stop. Hey. Temps auquel tu te dis mais on pourrait améliorer ça, on pourrait aider telle personne, si on faisait ça, ça veut dire qu'on pourrait aider plus de personnes, on pourrait leur permettre de faire d'autres choses, de leur permettre d'être mieux soigné, d'être pris en charge. Tu penses à rien d'autre en fait. Tu t'écoutes même plus parce qu'il n'y a pas d'intérêt à t'écouter parce que toi dans tous les cas tu vas toujours mieux que les autres personnes. C'est quoi un mal de crâne? Quand à côté t'as des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, pas de quoi se laver, pas de quoi se mettre de vêtements. Franchement, tu vas faire attention à ton mal de crâne? Non. Tu te donnes à fond, tu sais que ta mission elle est pour une durée courte. Donc du coup tu te donnes pendant ce temps donné là. Et tu te reposeras après parce que toi t'as l'opportunité de pouvoir te reposer. Derrière, chez toi, tranquille, au chaud, dans ton pays. Quand j'étais malade après la Centrafrique, j'ai pris la décision, assez poussée par ma famille clairement, de rester en France. Il y a un poste qui s'est ouvert et je suis restée au siège de l'ONG, mais à Paris. Au bout de 6 mois, je commençais à tourner en rond. Je commençais à me dire que j'avais envie de repartir, que j'avais envie que ça aille plus vite, qu'il y ait plus de choses à faire, de voir du concret, de pouvoir voir comment on aide les gens, mais en vrai. J'ai fait 2 petites missions courtes et je suis actuellement chargée de communication en France. Donc c'est un peu bizarre d'être en France en mission, mais c'est possible. Tu te mets en mode mission, mais dans ta propre ville. Donc c'est aussi un côté qui est assez compliqué, que je trouve assez compliqué, c'est prendre la distance vis-à-vis des personnes qu'on aide. Parce que là, c'est en bas de chez moi. Elles ne sont pas à 4 heures d'avion, 5 heures d'avion. Et mine de rien, ces 4 ou 5 heures d'avion te permettent de mettre une distance entre chez toi et ta mission. Alors que là, j'ai 0 distance. Le métro, c'est tout. C'est pas plus dur parce que dans un sens, c'était aussi dur que de se retrouver dans une salle alors que ça tire partout, qu'il y a des mecs qui tirent à la Kalachnikov autour de toi et de recevoir un afflux de blessés. C'est dur, mais c'est différent ici en France. La semaine dernière, je suis partie rejoindre mes amis à un dîner. J'ai pas réussi à faire de sas entre les deux. C'est-à-dire que j'avais été énervée par un truc l'après-midi dans la mission, par une situation que je trouvais intolérable d'un gamin qui était à la rue, qui dormait alors qu'il commençait à faire super froid, que personne ne pouvait l'aider, qu'on n'avait pas de place en hébergement. Et je suis arrivée, j'étais encore plus énervée. Résultat, je me suis barrée au bout d'une demi-heure du dîner. Je suis partie au bout d'une demi-heure parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il fallait que je trouve une solution, il fallait que je continue. Parce que je suis aujourd'hui en mission en France pour 6 mois et je bosse là-dedans et je reste là-dedans comme si j'étais ailleurs.
J'ai une panoplie de chaussures, de petites sandales plutôt jolies et des Birkenstock pour être à l'aise et puis aussi des petites baskets, des chaussures de marche quoi, parce que je vais faire une semaine où je vais un peu marcher dans les différents villages, probablement dans la boue parce qu'il va aussi pleuvoir, donc j'ai un peu les deux. Enfin, j'ai 4 paires de pompes. Mais ça va suffire, je pars seulement 15 jours. J'ai 32 ans et je suis humanitaire depuis 9 ans maintenant. Je pense que je suis arrivée dans ce métier d'abord par curiosité pour l'altérité, enfin ces pays-là, l'Afrique en particulier. Je suis partie voyager toute seule avec mon petit sac à dos en Afrique de l'Ouest pendant plusieurs mois. Puis après, j'ai fait des études, en fait, pour travailler à l'international, dans la coopération internationale. Et moi, j'ai voulu absolument faire un stage sur le terrain. Donc j'ai fait un stage de 6 mois en ONG au Congo, à Kinshasa. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans, si on peut dire comme ça. En fait, pendant nos études, on ne nous parlait pas du tout de cette question de qu'est-ce que c'est concrètement ce métier-là, dans le sens où ça implique toute ta vie, en fait. C'est pas que un métier. Souvent, tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de besoins, il y a énormément de travail. Il y a peu d'activités sociales, parfois. Et donc, ça te prend entièrement. Et puis, il y a cette espèce aussi de besoin de répondre à des besoins humanitaires qui sont souvent importants. Et donc, ça doit rester ta priorité. Et du coup, ça prenait toute ma vie, quoi. Quand j'étais en Jordanie, donc je travaillais dans les camps de réfugiés et dans le nord du pays, donc auprès des réfugiés syriens. C'était à un moment où voilà, il y avait énormément de réfugiés qui arrivaient encore, les besoins étaient énormes. On travaillait 80 heures par semaine et là, gros moment de stress, de frustration et de travail de dingue, quoi. À travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps et à plus du tout avoir de vie perso. C'est vrai, quand tu te retrouves confronté au quotidien à des personnes qui sont en grande difficulté, qui pleurent dans tes bras, qui n'ont pas accès à la santé, à la nourriture, etc. Et puis du coup, toi, tu essaies d'apporter des réponses, mais c'est assez compliqué. Émotionnellement, c'est super dur. Donc il y a des gros moments de craquage, ça c'est sûr. J'ai pu me retrouver à me lever, à pleurer tous les matins, à pleurer au boulot parfois, et puis à lâcher physiquement, ouais, parfois. Mais sans réussir totalement à m'arrêter de bosser, donc en continuant, mais en perdant du poids un petit peu, en étant crevée, en dormant plus, En fait, j'avais des moments très forts et très beaux au boulot, donc avec une super équipe qui était hyper chaleureuse, hyper soutenante, et avec on rigolait énormément, etc. Mais dès que le boulot s'arrêtait, ça devenait hyper compliqué. On était une organisation et un projet, enfin mon projet grossissait énormément et à une vitesse hallucinante, parce qu'effectivement il y avait des besoins et qu'il fallait couvrir ces besoins-là, et qu'il y avait beaucoup de financements qui arrivaient pour pouvoir développer notre projet. Sauf que moi, j'avais le poste de 3 personnes et que du coup, j'avais l'impression qu'on faisait pas de la qualité, qu'on n'aidait pas les personnes au mieux que ce qu'on pouvait aider. J'arrivais pas à l'exprimer, j'arrivais pas à dire non et il fallait toujours être plus gros. On travaillait dans des cliniques aussi et il fallait toujours en nourrir plus. Il fallait toujours recruter plus de monde et ça s'arrêtait jamais en fait. La difficulté, elle était là. Dans cet appartement toute seule après avoir vécu 6 mois en colocation avec une collègue, donc j'étais hyper contente parce que j'avais trouvé un appart dans un quartier super sympa de Amman avec une super vue, etc. Et je vivais toute seule dans cet appartement là et au bout d'un moment, en fait, je me suis fait emmerder par le propriétaire de la maison qui en fait vivait au-dessus de chez moi et qui me faisait flipper de plus en plus, et qui, jusqu'à un jour où il est rentré chez moi en menaçant en fait de m'agresser, de me violer. Il me disait qu'il venait chez moi quand j'étais pas là, qu'il allait voir mon linge sale. Il m'a dit « Oui, je sais que tu travailles sur les violences faites aux femmes, sur les viols, fais attention à toi ». Et puis il envoyait aussi, il avait une femme de ménage qui l'envoyait zoner autour de moi pour me checker un peu dans l'appart, parce que j'avais des grandes baies vitrées tout autour de mon appart. Il me disait aussi surtout fais attention, ferme bien ta fenêtre dans ta chambre parce que tu sais qu'on peut rentrer par la fenêtre. Enfin, il me faisait flipper comme ça. La première fois, je me suis dit c'est pas grave, il est juste un peu malade, il va rien m'arriver. J'en ai parlé à une collègue qui était en Jordanie depuis longtemps, qui m'a dit il va te faire flipper, mais il va rien se passer, donc t'inquiète pas. Un autre jour aussi, je suis rentrée chez moi après une semaine de vacances de rêve à Zanzibar où j'étais hyper détendue, c'était génial. Et en fait, il avait fait exprès de fermer la porte d'entrée pour être obligé de venir m'ouvrir en pleine nuit. Et de là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais me faire violer, quoi. Donc je me suis barrée comme ça du jour au lendemain. J'en ai parlé à mon boss, enfin le directeur de mon ONG, qui a une réaction assez légère, puisque en gros, il m'a dit que c'était de ma faute, que c'est moi qui avais choisi cet appart. Et surtout, il m'a dit que parce que j'étais une jolie fille, je l'avais bien cherché. Sachant qu'on était une ONG qui travaillait sur la problématique des violences. Et surtout, ils ont refusé que je porte plainte contre ce monsieur, enfin que j'en parle. Ils ont refusé de rendre l'appartement, donc ils ont gardé l'appartement et ils ont mis un autre collègue à ma place. Donc tout ça s'est enchaîné, j'avais l'impression d'être absolument pas soutenue. Je m'effondrais en larmes en permanence, parce qu'en fait j'avais eu hyper peur, j'avais l'impression d'être toute seule. J'étais pas chez moi, j'en ai parlé à personne chez moi, parce que... Enfin j'en avais parlé à ma mère, mais pas dans tous les détails, parce que je voulais pas la faire trop flipper. Et puis ça s'est enchaîné, du coup comme j'étais déjà fatiguée, bah là j'ai complètement craqué. J'ai demandé des jours de congé, on les a refusés, puis alors là c'était... Enfin j'ai craqué totalement, quoi. Quand je leur ai dit que je voulais partir, finalement, il m'a dit « Bah, tu vas partir plus tôt parce que de toute façon, t'es trop fatiguée, il faut quand même que tu prennes soin de toi. » Donc c'était quand même assez risible, quoi, parce que c'est lui qui m'avait foutu dans cette situation. Après cette expérience, donc je décide de rentrer, je prends des petites vacances dans la région, donc c'était super. Ensuite, je rentre en France, j'en profite, je me repose, etc. Mais pour moi, il était hors de question que je m'arrête à ce moment-là. Enfin, du coup, j'ai très vite, très rapidement cherché une autre mission. Bah, je suis repartie 2 mois après en Sierra Leone, avec l'idée que la Sierra Leone, c'était un pays plus cool. Donc je m'étais dit, bon, j'y vais. J'avais signé pour 2 ans. J'avais pris 200 kilos de valises avec toute ma vie dedans pour m'installer là-bas. J'arrive et une semaine après, il y a Ebola, en fait, qui se déclare. Tous les expats que j'avais rencontrés la première semaine, tout le monde se barre. Les compagnies aériennes arrêtaient leurs avions. Tous les programmes s'arrêtent pour pouvoir être réorientés vers la réponse à Ebola. En fait, moi, j'étais tellement, je pense, encore affectée par ce qui m'était arrivé en Jordanie, mais aussi les années d'avant, j'étais pas prête, quoi. Moi, j'avais pas peur du tout de tomber malade, absolument pas, mais par contre, je sentais la tension, la peur des gens, et ce qui était normal, en fait. Hein. On avait des collègues qui sont décédés, on avait un programme de santé assez fort, donc on a eu des infirmiers, des médecins qui sont morts très vite. Et en même temps, mes collègues étaient super investis. Tout de suite, ils ont super réagi. On a été une des premières organisations à répondre à la crise Ebola. Et moi, j'étais là, qu'est-ce que je fous là? J'ai pas du tout envie d'être dans une crise humanitaire. Je suis pas médecin en plus, donc je me sentais pas légitime. Et puis du coup, voilà, j'ai décidé de partir et un peu du jour au lendemain de rentrer en France. Avec toujours cet énorme sentiment de culpabilité de lâcher tout le monde, de me barrer. J'ai pas dit complètement la vérité aussi à mon organisation. Enfin bref, le premier mois c'est toujours génial parce que je repasse du temps avec les gens que j'aime, j'en profite, je me repose, etc. Puis au bout d'un moment, les gens que j'aime ils ont leur vie et puis moi j'ai l'impression de rater un peu le train, de pas réussir à leur... Tes potes ils ont acheté un appart, ils ont fait des enfants, ils sont mariés, ils sont en couple, etc. Et puis toi t'es là toujours avec ta petite valise, tu reviens chez tes parents. Ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup entre nous, avec des professionnels pas forcément, mais entre nous, en tout cas avec certaines personnes.
Sauf que là, qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure?
Sauf que là, je suis en train de faire mes valises pour partir en mission pendant 2 semaines au Rwanda pour appuyer des projets sur lesquels je travaille en ce moment. Je me sens un peu stressée parce que j'ai 1000 trucs à faire, que j'ai ma valise à faire, que je pars à 4h du mat, que je vais avoir un long voyage et en même temps hyper excitée parce que je vais retrouver le terrain que j'adore, des gens super, une expérience qui va être super, super intéressante.
Quoi le temps là-bas ?
Il fait entre 15 et 28 degrés. Ça va changer d'ici ? Juste en en parlant, je suis hyper contente, je pense que ça va être super intéressant. Voilà, donc t'es addict quoi en fait.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, 2 histoires d'humanitaire, un reportage de Delphine Dilly réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Charlotte, à Marie, à Fanny, à Xavier, à Mathilde, à Stéphania, à Anne et à Rachel. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, nul ne l'ignore. Zambi wangi panamona gamufalele mwanyeze wandoka la benyaba emengondo ya mie mwenye mona mwenye weza mona mwenye kalunga mba mona mwenye ya weza mona mwenye kalunga mba. Aluke nungolo fwa gamu bingi kiaze mwene wando kala benyaba emengondo ya mye mona mwenye soya weza mona mwenye kalunga ngumba zambi wangi panamona gamu valele mwene wando kala benyaba emengondo ya mye mona mwenye soya weza mona mwenye kalunga ngumba mona mwenye soya weza mona mwenye kalunga ngumba mona mwenye soya weza mona mwenye kalunga ngumba Zambi wangi panamona kamufalele mwanyese wando kala benyaba emengondo yange mona mwenye soya weza mona mwenye kalunga ngumba mona mwenye soya weza mona mwenye kalunga ngumba mona mwenye soya weza.
na mona mwenye Kalunga ngumba.